Europe Soir, Pierre de Villeneuve vous informe sur Europe 1.
L'information dans un petit instant et puis le Club Tour bien sûr avec Axel May à 19h40 et nous dans Panorama on parlera des camping-cars et du tourisme en plein air, ça serait après votre journal. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1. David contre Goliath, Alizé Cornet réalise un exploit à Wimbledon. La Française a sorti dès le troisième tour la numéro 1 mondiale, Iga Świątek.
Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à l'épreuve du remaniement. Le nouveau gouvernement sera annoncé en début de semaine prochaine. Un exercice de funambule pour le président.
La colère des passagers à Roissy empêchés de prendre leur avion. Troisième jour de grève à l'aéroport parisien et beaucoup de craintes quant au bon déroulement des départs en vacances.
Après la pluie, le beau temps et surtout la fête. Après deux jours d'annulation en raison des orages, les festivaliers sont de retour aux Eurockéennes à Belfort, bien décidés à pleinement en profiter. Nous serons sur place.
Transition toute trouvée, quel est le temps, Valérie Darmon ? La tendance. Eh bien, on aura la tendance en fin de journal. Merci Valérie Darmon. Et on commence donc par cet exploit absolument sublime, exploit d'une Française au tournoi de Wimbledon.
Oui, c'est l'exploit
Alizé
monumental.
Cornet élimine au troisième tour la numéro 1 mondiale Iga Świątek, Colin Abgral.
Oui, on vous parlait d'Harmony Tan il y a une heure, mais Alizé Cornet a donc réalisé l'impensable cet après-midi en éliminant Iga Świątek en 2-7, 6-4, 6-2, 1h31 de jeu seulement. La numéro 1 mondiale qui paraissait tout bonnement invincible cette année, elle restait sur 36 victoires d'affilée, record du 21e siècle. La Niçoise a donc réussi ce que 36 filles avant elle n'avaient pas pu faire. Et je vous propose de l'écouter justement chez le diffuseur beIN Sport après cette victoire qui lui rappelle quelques souvenirs.
Ça me rappelle le moment où j'ai battu Serena, au même moment exactement. Ce court est un porte-bonheur pour moi. Je suis une énorme fan d'Iga. Elle est tellement talentueuse. C'est une joueuse incroyable. Une très belle ambassadrice du tennis féminin. Je suis très honorée de l'avoir battue aujourd'hui.
Voilà, c'est la huitième fois dans l'histoire qu'une Française élimine la numéro 1 mondiale dans un tournoi du Grand Chelem. Et la dernière fois, vous l'avez compris, c'était déjà Alizé Cornet à Wimbledon en 2014 face à Serena Williams. À 32 ans, elle aussi va peut-être battre un record en septembre. Elle dispute actuellement son 62e tournoi du Grand Chelem d'affilée. Et donc, elle battra ce record en septembre à l'US Open. C'est une journée magnifique pour les Françaises. Et pour reprendre les mots d'Alizé Cornet, je suis comme le bon vin. Plus je vieillis, plus je m'améliore.
Alizé qui met fin à 37 victoires consécutives de Iga Świątek. C'est quand même absolument hallucinant, hein Sophie ?
Oui, il y a une autre Française qui a brillé aujourd'hui à Wimbledon, Harmony Tan, 115e mondiale, vainqueur de Serena Williams au premier tour. Elle s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle a dominé la Britannique Cathy Boulter, 6-1, 6-1. Merci Colin Agbral.
19h03, c'est un week-end studieux pour l'exécutif avant l'annonce du remaniement à venir cette semaine.
Emmanuel Macron s'est longuement entretenu hier avec Elisabeth Borne. La première ministre lui a présenté les conclusions de ses consultations avec les autres partis politiques. Prochaine rencontre entre le président et sa première ministre lundi ou mardi, juste avant le discours de politique générale de la chef du gouvernement. Ce remaniement, c'est à quitte ou double pour Emmanuel Macron, Louis de Raguenel.
Oui, d'autant que cette période de flottement a trop duré, comme le déplore ce ministre important. Ça fait depuis février, à cause de la présidentielle, qu'on n'a pas d'orientation claire. C'est du jamais vu d'être à l'arrêt autant de temps. Après ces plus de 4 mois de faux plats ponctués d'élections présidentielles puis législatives, Emmanuel Macron veut croire que son deuxième quinquennat n'est pas mort-né. Alors ce week-end, le président Elisabeth Borne ou encore Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, ainsi que d'autres ministres issus de la gauche, enchaînent les appels téléphoniques pour tenter de convaincre des députés des oppositions réputé Macron compatible, soit de voter la confiance, soit de s'abstenir mercredi prochain à l'Assemblée nationale pour obtenir la confiance symbolique, à défaut d'être politique, de la nouvelle équipe gouvernementale dont l'affiche doit être dévoilée en début de semaine. La prochaine épreuve du feu pour le gouvernement, le projet de loi pouvoir d'achat, pour savoir si un compromis existe sur ce texte et donc possiblement sur d'autres. Mais chaque groupe à l'Assemblée a des idées très arrêtées sur le sujet. Le Rassemblement national veut par exemple baisser la TVA de certains produit, là où la gauche demande un SMIC à 1500 euros. Deux propositions que rejette pour le moment le président. Après avoir cherché à gagner du temps, repousser les échéances, les dés sont presque jetés pour l'exécutif. Emmanuel Macron saura la semaine prochaine si sa stratégie a fonctionné.
Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Et cette question à présent, y a-t-il une menace sur les départs en vacances?
Beaucoup d'inquiétudes, effectivement, à une semaine de la première grande vague de départs, notamment dans les aéroports. À Paris-Roissy, c'est le troisième jour de grève. Les pompiers ont cessé de travailler jeudi pour défendre leur salaire et protester contre leurs conditions de travail. Une partie des pistes a dû être fermée pour des raisons de sécurité. 150 vols ont été à nouveau annulés entre 7h et 14h aujourd'hui, soit un vol sur 5, ce qui provoque une attente interminable pour les passagers impactés.
Tirer une tête de 3 km, ce n'est pas de leur faute une fois de plus. Ils sont derrière le comptoir, ils subissent le client. Mais effectivement, dans l'absolu, c'est plus les personnes qui font grève à ce moment-là, qui font ça en sachant pertinemment qu'ils vont faire suer tout le monde, quoi. On n'est pas prévenu. On le sait une fois qu'on arrive devant le guichet. Parce que rien qu'on arrive, c'est même pas affiché sur l'écran.
Fatiguée de tout ça, ouais. D'être resté trop longtemps dans l'aéroport, là, ça commence à être un peu long.
Depuis 8h du matin, on est là, quoi. Jusqu'à 20h45, on sera là.
Ras-le-bol, parce que c'est de l'attente, et puis c'est du parking à payer en supplément. On espère ne pas dormir à l'aéroport, ce serait sympa. On ne peut pas faire autre chose que d'être résigné, de toute manière, on n'a pas d'autre choix. Je ne peux pas prendre un pilote en otage en lui disant « on décolle tout de suite », ce n'est pas possible.
Des témoignages recueillis par Arthur Pereira pour Europe 1. À noter que les syndicats ont d'ores et déjà déposé un nouveau préavis de grève pour samedi et dimanche prochain, les 9 et 10 juillet, premier week-end de départ en vacances d'été. Outre la grève, voyager en avion cet été va se révéler compliqué en raison de la forte inflation. Les prix des billets se sont envolés ces dernières semaines et ils atteignent un pic en cette période de vacances, même pour les destinations en Europe, qui sont pourtant généralement plus accessibles. Confrontés à cette hausse des prix, les voyageurs petit budget s'organisent différemment. Wilfried de Villers.
Quand elle commence à organiser son voyage au Portugal, Juliette n'en revient pas. Plus de 300 euros l'aller-retour 3 mois avant le départ. Avec son budget d'étudiante, elle ne peut pas se le permettre. Alors, elle trouve un plan B.
La seule alternative qu'on ait trouvée, c'était de partir du Luxembourg. Et donc, on a pris un bus, en effet, pour aller au Luxembourg et après prendre notre avion.
Près de 5 heures de bus, mais de sacrées économies.
On a eu 40 euros aller-retour en avion et je crois 20 euros de bus. Donc, beaucoup moins que les 300 euros au départ de Paris.
D'autres ont tout simplement renoncé à prendre l'avion cet été. C'est le cas de Baptiste, jeune diplômé. Il rêvait d'un voyage au Kenya pour fêter la fin de ses études.
Quand je me suis penché sur les billets d'avion, ça m'a bien refroidi. Et à plus de 800 euros par personne, ça fait vraiment exploser le budget. Du coup, voilà, j'ai dû renoncer à mon idée d'aller au Kenya. Je partirai peut-être, du coup, mais moins loin et moins cher.
Les destinations européennes subissent elles aussi une forte inflation. Selon la Direction générale de l'aviation civile, les prix des vols au départ de la France ont augmenté de plus de 19% en mai par rapport à la même période en 2021.
Wilfried de Villers, les entreprises souffrent également, elles, de l'augmentation des coûts de l'énergie. Le gouvernement a prévu un plan de résilience pour les soutenir. Les conditions d'éligibilité ont été dévoilées aujourd'hui. Pour bénéficier de cette aide d'urgence, les entreprises devront entre autres avoir effectué des achats de gaz et d'électricité atteignant au moins 3% de leur chiffre d'affaires en 2021 et elles pourront déposer leur demande d'aide à compter de ce lundi le 4 juillet.
Plusieurs craintes pèsent donc sur les départs en vacances, les mouvements sociaux, l'inflation, mais également le Covid.
La 7e vague de Covid-19 en France prend de l'ampleur. Plus de 125 000 nouveaux cas de contamination ont été détectés hier en 24 heures. Le nombre des hospitalisations est également en hausse. Le taux d'incidence a augmenté de 53% en une semaine. Une mission flash a été déclenchée par le gouvernement pour désengorger les urgences. Pour Arnaud Chiche, médecin urgentiste et fondateur du collectif Santé en danger, c'est un premier pas.
La situation du système de santé en France est extrêmement préoccupante, avec un nombre très important de fermetures de services d'urgence. Alors qu'on n'était pas en vague Covid, il faut faire très 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 attention à ce que les choses ne s'aggravent pas. Il est bien évident que si, en dehors d'une vague Covid, le système de santé nous paraît fragile au point de mettre en place une mission flash, si la situation devait s'aggraver avec en plus un afflux de patients nécessitant une hospitalisation, j'ai du mal à imaginer comment ça pourrait bien se passer. Non, il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on fasse très attention avec cette nouvelle vague. En faisant des recommandations fortes, de remettre des masques dans les endroits où c'est périlleux, dans des endroits mal ventilés, dans des lieux clos, ça peut suffire et pour faire en sorte de freiner cette vague.
Arnaud Chiche avec Nina Droff pour Europe 1. Une nouvelle manifestation en France aujourd'hui pour la défense du droit à l'avortement. Des rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes en réaction à la décision de la Cour suprême la semaine dernière de révoquer le droit à l'IVG, mais également pour l'inscription du droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution française. En Ukraine, la confusion concernant la situation à Lysychansk, que l'armée ukrainienne affirme que les combats font rage dans cette ville de l'Est du pays, mais qu'elle n'est pas encerclée contrairement à ce qu'ont annoncé les séparatistes. L'Ukraine dénonce une terreur russe délibérée après les récentes frappes meurtrières et réclame à nouveau aux Occidentaux des systèmes antimissiles.
La guerre en Ukraine qui a provoqué cette année une crise des réfugiés.
Oui, crise qui s'ajoute à celle déjà existante des migrants en provenance de Syrie, d'Afghanistan ou d'Afrique qui tentent de rejoindre le continent européen, souvent sur des embarcations de fortune en traversant la mer Égée via la Turquie. En première ligne, la Grèce, porte d'entrée de l'Europe. Cette semaine, elle a accusé Ankara d'avoir tenté d'envoyer plus de 1000 migrants en 3 jours sur les îles grecques. Athènes dit avoir repoussé à temps les embarcations de migrants pour de nombreuses ONG. Cela s'apparente à des refoulements, une pratique illégale que dénonce la Turquie. Notre correspondant Rémi Trio a embarqué avec les gardes-côtes turcs qui prennent en charge les migrants refoulés au large de l'île de Samos.
Entre les côtes turques et l'île grecque de Samos, il n'y a qu'une poignée de kilomètres scrutés par les gardes-côtes des deux pays. Cette nuit, Mohamed a essayé de rejoindre l'Europe sur un petit zodiaque avec 7 autres Palestiniens. Mais alors qu'elle se trouvait dans les eaux territoriales grecques, leur embarcation a été refoulée par une patrouille.
Les Grecs nous ont frappés. Ils ont pris nos téléphones et tout notre argent. Ils nous ont dit que nous étions des singes, pas des humains. Mais où est l'humanité ?
D'autres migrants montent à bord, interceptés par les autorités turques. Des familles congolaises avec des enfants. Lala, la trentaine, avait très peur d'avoir affaire aux Grecs quand la vedette des gardes-côtes est arrivée.
On nous a raconté qu'elle vous chasse, ils vous mettent dans de petits radeaux sans moteur, ils vous laissent partir.
Selon Ankara, près de 9000 migrants ont été ainsi refoulés par la Grèce depuis le début de l'année. Au large de Samos, Rémi Trio, Europe 1.
Du nouveau dans l'enquête sur l'affaire Carlos Ghosn, 2 magistrats et un enquêteur français sont arrivés aujourd'hui à Tokyo. Ils vont y mener des interrogatoires pour en savoir plus sur le présumé schéma de blanchiment en bande organisée mis en place par l'ancien patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, qui se trouve au Liban et qui est toujours visé par un mandat d'arrêt de la justice française.
Allez, direction Belfort à présent, où les Eurockéennes ont pu reprendre aujourd'hui.
Les 2 premières journées de concert ont été annulées à cause des orages et des dégâts qu'ils ont occasionné. Après une journée de nettoyage, les festivités ont donc pu reprendre à 16h pour le plus grand bonheur des festivaliers dont vous faites partie, Tatiana Gezelman.
On est trop contents ! Et oui, vous l'entendez, ils sont bien motivés à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Léna, par exemple, était là à l'ouverture des grilles à 16h.
Bah, l'ambiance du camping, c'est cool, mais là, on a surtout envie de voir des groupes de musique parce que de base, on vient au festival pour ça quand même.
Il faut dire que cette Strasbourgeoise de 27 ans est arrivée jeudi matin à 8h. Sa copine, Valeska, a elle renoncé à venir hier, mais du coup, pour compenser, elle fera finalement aussi Muse demain.
Un jour, c'est passé. J'ai hésité de rejoindre les gens au camping, puisqu'il y avait une énorme ambiance. Mais on est très contents d'être là aujourd'hui et de rattraper tout ça.
Même si un nouveau petit coup dur est tombé tout à l'heure, le groupe False ne sera finalement pas présent ce soir. Mais pas de quoi ôter son sourire à Kem Lalo, le programmateur du festival.
Super content que la journée se passe, même si on a eu encore quelques petits soucis, parce que bah, ça continue, quoi, tu vois. Mais au moins, on va avoir une journée quasiment complète. Et il fait beau, donc là, on peut dire que ça y est, les Eurockéennes sont enfin partis.
Et je peux vous dire qu'ici, tout le monde a sorti son plus beau déguisement et ses plus belles paillettes. Et d'ailleurs, j'ai moi-même eu droit à mon petit passage au stand de maquillage pour briller de 1000 feux toute la nuit.
Eh bien, bon festival, Tatiana Gezelman.
Allez, on passe au sport. On a évoqué le tennis en début de journal, on va maintenant parler du Tour de France.
Le Néerlandais Fabio Jakobsen de l'équipe Quick-Step remporte la 2e étape entre Roskilde et Nyborg au Danemark. Étape sur 202,2 km. Et le maillot jaune est désormais sur les épaules du Belge Wout Van Aert de l'équipe Jumbo. Axel May, grosse ambiance à l'arrivée de cette 2e étape. En revanche, on était loin du spectacle sportif attendu.
Oui, pour reprendre les mots d'un directeur sportif, l'étape faisait peur à tout le monde, mais elle a accouché d'une souris. Vous savez, il y avait un premier pont suspendu dans le style du pont de San Francisco, version béton gris. Et puis un second pont plus près de l'eau, lui. 18 km d'ouvrage d'art au total, juste avant l'arrivée à Nyborg, au cœur du Danemark. Le vent devait créer des bordures, des cassures, faire exploser le peloton. Encore fallait-il que ce vent souffle de côté, si possible de côté arrière. Là, ce fut un vent de face qui a plutôt ralenti les coureurs. Alors, même si la nervosité chez les coureurs a créé deux chutes, juste avant le pont et ensuite dans l'emballage final, avec la victoire de Jacobsen, vous l'avez dit, le néerlandais, c'est sa 11e de l'année et la 50e depuis que la formation de Koninck est sur le Tour de France. 50 victoires pour cette formation, celle du grand absent français, cette formation sur la grande boucle, Julian Alaphilippe, qui est resté chez lui. Alors, Van Aert et maillot jaune à la place d'Yves Lampaert, un autre Belge. Et puis, c'est un Danois qui a déchaîné les applaudissements de la foule, le Danois Magnus Cort Nielsen, qui revêt le premier maillot à poids de ce Tour de France. Écoutez. Voilà, Magnus, la foule l'applaudissait comme s'il avait ou revêtu le maillot jaune ou gagné l'étape. Premier donc maillot à poids de ce Tour de France. Demain, la troisième et dernière étape au Danemark devrait se terminer, elle aussi, au sprint.
Axel May qui nous fait vivre sur Europe 1 avec Martin Lange, cette 109e édition du Tour de France.
Ouais, le Tour de France, il en sera question dans Europe 1 Sport, mais pas que. Bonsoir Jean-François Pérez.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Oui, Tour de France, double dose de Tour de France. On va poursuivre le Club Tour jusqu'à 20h30 ce soir, avec notamment les montagnes danoises, hein, puisque vous avez vu, il y a un maillot à poids au Danemark. Je ne savais pas qu'il y avait des montagnes. Et si, c'est possible. Avec le Tour de France, tout est possible. Dans trêve de plaisanterie, on sera évidemment sur la ligne d'arrivée avec Axel et avec Martin Lange. On parlera foot évidemment aussi. Parce qu'un nouvel entraîneur arrive à l'Olympique de Marseille, c'est très vite, hein, Sampaoli qui s'en va, et c'est Igor Tudor, vous ne le connaissez pas, c'est un ancien international croate, il arrive d'Italie, on va faire connaissance avec sa personnalité, avec son style de jeu, débat Paris Saint-Germain, qui pourrait laisser partir son vice-capitaine et symbole de l'équipe, Prestel Kimpembe, champion du monde 2018, on fera connaissance aussi avec Vitinha, qui est un jeune international portugais, première recrue, plus de 40 millions d'euros, et puis on parlera de Monaco, et ça c'est un sujet assez original. Figurez-vous que la réserve de Monaco, l'équipe réserve, va aller jouer la saison prochaine, non pas traditionnellement dans un championnat français classique, National 3, mais dans un championnat privé en Angleterre.
Pourquoi ?
Parce que c'est comme ça, parce que c'est peut-être le début d'une révolution pour les jeunes joueurs, peut-être le début des ligues fermées en Europe. On le craint, on en parle depuis quelques temps, les Super Ligues. Monaco est peut-être en train de donner l'exemple, on va en parler ce soir.
Ils vont être bilingues maintenant, nos footballeurs. Merci beaucoup Jean-François Pérez.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 20h. Et puis en rugby, premier test match de l'été pour l'équipe de France. Les Bleus ont battu le Japon 42-23, 9e victoire consécutive pour le 15 de France. Autre résultat de ces test match, l'Australie qui a battu l'Angleterre 30-28. Est-ce que j'ai le temps pour la Formule 1 ? Oui, un petit mot. Allez, l'Espagnol Carlos Sainz a décroché la première pole position de sa carrière. Le pilote Ferrari partira donc demain premier lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.
Voilà, et puis on rappelle quand même cet exploit, hein, Alizé Cornet, qui bat dès le troisième tour de Wimbledon la numéro 1 mondiale, Iga Świątek, 6-4, 6-2. Merci, c'était le journal de Sophie Tussaud. La météo, Valérie Darmon, comment ça se passe ?
Tendance météo bonne sur quasiment tout l'Hexagone pour toute la semaine à venir et même au-delà. Il va faire chaud, complètement classiquement, beaucoup dans le sud, beaucoup moins au nord. En bord de Manche, d'ailleurs, les brises de mer vont rafraîchir les plages avec de belles éclaircies tout de même dans votre ciel. Au sud de la Loire, quelques orages sont à prévoir qui vont commencer dès ce dimanche, surtout à proximité des reliefs. La Provence et la basse vallée du Rhône souffrent de la chaleur, très forte chaleur, de dimanche à mardi avec des pointes à 38 du côté de Nîmes. À partir de mercredi, la chaleur qui diminue un petit peu sous l'effet du Mistral et de la Tramontane qui vont se lever. En bord de Manche, il fera beau, modérément chaud, en particulier en Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie, tandis que quelques passages nuageux vont circuler sur la Côte d'Opale et la mer du Nord. L'arc atlantique est le mieux loti avec du soleil, du ciel bleu et de la chaleur tempérée.
Merci Valérie Darmon. Dans un instant, le boom des vacances en plein air. Sortez votre tente et peut-être aussi votre camping-car. À tout de suite.